Christiana Bello nous propose trois contes de Noël.
Les contes de Noël nous transportent dans un univers où se mêlent le rêve, l'émerveillement, l'enchantement, la beauté. C'est un conte paru dans la presse paroissiale du diocèse de Nancy. Le concierge du ciel. Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du ciel se demanda : que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d'étoiles si elle ne pouvait pas se serrer un peu, laisser un peu d'espace, faire une petite place à cette nouvelle venue. « Il n'en est pas question, » répondirent-elles, « nous sommes installés dans cet ordre depuis toujours. Il est impossible de changer notre ordonnance. » Du côté de la Voie lactée, même réponse de la grande ours. « Pas de place. Que faire ?» se demanda-t-il. Cette étoile a un destin particulier. Elle a guidé les mages jusqu'au sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la terre. Mais oui, la voilà la solution. Je vais la donner au monde. Alors, il alla dans son atelier et là, il cassa l'étoile en 1000 morceaux, en 1000 éclats dont il remplit son tablier. Il sortit. Et comme le semeur à la volée, il lança les éclats d'étoiles partout sur la terre. Mais ils n'allèrent pas n'importe où. Certaines se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d'être guidés par une lampe frontale. D'autres encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares, sur la mer, pour éviter aux embarcations de s'échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. Chacun de nous a reçu un éclat de l'étoile de Noël. À nous de le faire briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur. C'est un conte de José Cabanis, qui est né en 1922 à Toulouse et mort en 2000 à Balma. C'est un romancier, essayiste et magistrat français. Membre de l'Académie française en 1990, il obtint le prix Renaudot en 1965 pour son roman « La bataille de Toulouse ». Un vieux frère. Un vieux frère que je ne connaissais pas et n'avait pas vu venir, me toucha l'épaule en souriant et me fit signe de le suivre. Il ouvrit la porte de l'église, s'effaça devant moi, puis referma la porte. Il avançait sans bruit et j'essayais de marcher moi-même sur la pointe des pieds car le moindre craquement résonnait ici étrangement. Non loin de l'autel, il a allumé une lumière, s'est retourné et m'a montré du doigt au bas d'un pilier, une sorte de coffret vitré, tandis qu'il me regardait droit dans les yeux, avec un sourire émerveillé. Il y avait là un poupon, tout nu en celluloïde, sur un peu de paille. Nous nous sommes mis à genoux, tous les deux. C'était au visage radieux de ce vieux moine que je pensais. Il n'avait pas le droit de me dire un mot, mais voulait me communiquer sa joie, et Dieu sait si je la comprenais. Dans cette église où j'étais à genoux, par ce matin de Noël, il faisait bien froid, mais quelle allégresse en moi et quelle chaleur au cœur. Je savais très bien que j'étais devant une poupée médiocre, mais je me disais aussi que le Christ était né et qu'on ne pouvait plus être triste.
Thank you.
Ce texte pourrait être un conte, mais c'est une histoire vraie. Une nuit de Noël, au temps des dragonnades. C'était une nuit de Noël, au début du XVIIIe siècle. Le jeune marquis, Horace de Candillac-Beaupré, accompagné de 4 hommes, tous déguisés en bergers, cheminait dans la montagne vers l'Hermée, dans les Cévennes. La nuit était extrêmement froide et au-dessus des arbres trapus, aux branches dépouillées, des milliers d'étoiles scintillaient dans le ciel pur. Les 5 hommes était officier de la compagnie Dragonne, logé au pont de Montvert. Les dragons étaient des soldats impitoyables, réquisitionnés par le roi Louis XIV pour exterminer les camisards huguenots, ces protestants qui, malgré les terribles persécutions dont ils faisaient l'objet, continuaient à s'assembler en secret dans les vallées retirées des montagnes cévenoles. Ce soir-là, sur l'ordre de l'abbé du Chaillat, il devait se saisir de Gédéon Martin, un montagnard qui servait de guide aux pasteurs qui allaient de lieu en lieu prêcher l'Évangile au péril de leur vie. Horace de Candillac-Beaupré s'était engagé dans ce régiment, bien qu'il fût d'origine huguenote lui-même. « Nous approchons, dit-il, après une longue et pénible marche, voici là-bas les maisons du village, et de ce côté, si je ne me trompe, celle de Gédéon Martin. Postez-vous aux alentours et guettez. Moi, je vais rôder près de l'habitation et m'assurer que je ne me trompe pas. » Prudemment, l'officier se glissa dans la cour et s'approcha de la minuscule fenêtre éclairée afin de jeter un coup d'œil à l'intérieur. À ce moment, la porte s'ouvrit et une petite fille sortit. Elle scruta longtemps les ombres de la nuit, puis aperçut le jeune homme près de la fenêtre. Sans manifester la moindre peur, elle se dirigea vers l'inconnu, le prit par la main et l'entraîna vers la maison en disant d'une voix claire dans le patois du pays « Je vous espérais. Enfin vous êtes là. Entrez vite et soyez le bienvenu. » Horace ne s'attendait nullement à trouver une fillette dans la maison. Il avait cru comprendre que Gédéon Martin y vivait seul. Dans son étonnement, il suivit l'enfant dans la cuisine. Malgré la pauvreté de son ameublement, c'était une pièce agréable. Un bon feu dans la cheminée chauffait la maisonnette. Sur le pétrin qui servait de table, une grossière nappe était étalée et le couvert était mis pour 2 personnes. « Vous voyez, tout est prêt, » dit la petite Cévenole. Horace ne put s'empêcher de sourire devant son attitude confiante. « Mais dis-moi, pourquoi tu m'attendais? Tu sais donc qui je suis, » répliqua-t-il. « Oui, murmura l'enfant, avec une expression de rêve sur son visage, vous êtes celui dont ma pauvre mamée me parlait quand elle vivait encore. Vous êtes l'hôte de Noël, le pauvre, l'inconnu, qu'il faut recevoir de son mieux. Mais approchez-vous de l'âtre, il fait froid. » L'officier s'assit et la conversation continua. « Comment te nommes-tu, petite ? On m'appelle Guillemette. » « Eh bien, Guillemette, pourquoi donc es-tu toute seule en ce logis ? Parce que mon père est sur la montagne. Il rentrera après minuit. J'espérais que vous vous rencontreriez. Et si vous voulez, puisqu'il n'est pas encore là, je vais vous donner à manger. » Et Guillemette servit un repas simple mais chaud à l'homme qui était venu arrêter son père. Celui-ci, tout en savourant le pain noir, la soupe aux châtaignes et les bougnettes, sortes de beignets, interrogea la petite fille, pensant qu'elle pourrait, dans sa naïveté, lui donner des renseignements utiles. Mais au fur et à mesure qu'il écoutait l'enfant parler de son père, de son amour pour lui, Horace devenait de plus en plus songeur. Tout à coup, il réalisa que cet homme qu'il traquait comme une bête fauve était aussi un père, la seule protection de cette fillette. Jamais il n'avait songé, pendant les dragonnades, que tous ces huguenots avaient des cœurs de pères, de frères, d'époux, des cœurs qui révoltaient les cruautés et les injustices, des cœurs que déchiraient les séparations brutales, des cœurs qui saignaient devant les tortures infligées à ceux qu'ils aimaient. Une foule de questions surgirent dans son esprit. Comment avait-il pu rester insensible devant toute la souffrance qu'il avait causée dans tant de foyers? Comment avait-il osé considérer ces gens comme des bêtes nuisibles qu'il fallait écraser sans pitié? Et comment n'avait-il jamais songé que son propre grand-père, le respectable Olivier de Candillac-Beaupré, avait été un ferme huguenot? Il se rappelait ses voix indignées qui lui avaient crié une nuit dans l'horrible mêlée d'une assemblée surprise, parmi les coups de mousquet et les hurlements des blessés, « Candillac, Candillac, pourquoi nous persécutes-tu, toi qui fus des nôtres ?» Il n'arrivait plus à manger. Et lorsque Guillemette lui demanda de lire la belle histoire de Noël dans la Bible, il prit avec respect le vieux livre défendu que l'enfant avait retiré de sa cachette sous une pierre de l'âtre. Il était en mauvais état, tout enfumé, usé au coin, mal imprimé. Il se souvint alors de tous ces moments où il avait, dans son enfance, écouté, puis lui-même auprès de sa grand-mère, ces belles paroles du Christ. Comme si c'était hier, l'exhortation de sa grand-mère rejaillit dans sa mémoire. « Lis bien, Horace, et n'oublie pas, n'oublie jamais !» Il comprit combien il avait été fou de persécuter ceux de sa propre race, uniquement parce qu'ils aimaient ce livre défendu. Il réalisa qu'il était des leurs. Guillemette s'était paisiblement endormie, la tête sur son bras replié. « Je suis des vôtres. Va, petite, » murmura Horace. « Dors confiante, l'hôte de Noël ne dénoncera pas ton père que tu attends. » Il hésita un peu, puis il ouvrit son grand manteau, découvrant ainsi le terrible uniforme rouge des dragons, prit dans sa bourse 2 écus d'or, qu'il posa devant l'enfant, puis il tira de sa manche un fin mouchoir de linon brodé au coin de son chiffre et de son blason. C'était un cadeau de Noël inattendu et en même temps un message pour le père qui reconnaîtrait ainsi quel était le mystérieux visiteur de ce soir de Noël et un avertissement pour qu'il se méfie et redouble de prudence. Rapidement, il baisa la main de la fillette, ouvrit la porte et s'enfonça dans la nuit. « Rien à faire, » dit-il aux hommes qui montaient la garde. « Puisque Martin n'est pas rentré à 7 heures, c'est qu'il ne reviendra que demain. Retournons au pont de Montvert. » Puis il songea aux démarches qu'il allait tenter pour solliciter son envoi aux armées combattant sur la frontière du royaume. Ainsi, il ne serait plus parmi les bourreaux de ses frères. Au même instant, un homme descendit rapidement du Bougès à travers la forêt d'Altefage, et regagner sans être inquiété l'humble maisonnette où l'attendait sa petite fille endormie.
Un grand merci à Christiane Abello pour ses contes de Noël. Très bonne fête de Noël à toutes et à tous.